J'ai une question pour vous deux.
Benoît Dutrisac.
Je suis là pour aider.
Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario?
Mario Dumont.
Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire.
Ben, c'est calme.
C'est des crapules.
C'est calme, dire ça.
Ils ont tellement tout.
Non, ils ont jamais plus.
La rencontre Dutrisac-Dumont.
Fais un petit effort.
Alors qu'une des dernières mesures dans le budget Freeland fait énormément réagir, c'est-à-dire l'augmentation additionnelle sur le gain en capital pour le fédéral qui passera à partir de, 250 000 et plus, on passe de 50 % à 66 %. Est-ce qu'on se dirigera vers une ruée jusqu'au 25 juin? Benoît, Mario, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors, j'avais la discussion, Mario, avec Fabien Major, planificateur financier, puis il me disait, le téléphone sonne déjà, là, c'est déjà commencé, ouais. Là, avant la date limite du 25 juin.
Je vais commencer par une parenthèse. Tu sais, les gens, si vous trouvez ça, les gens pas habitués au budget, si vous trouvez ça bizarre que dans 95 % 99 % des mesures budgétaires, on va dire la phrase « à compter de minuit ce soir ». C'est très souvent dans les budgets. « Nouvelle taxe sur le tabac à compter de minuit ce soir ». Il y a un pourquoi à ça. C'est que le gouvernement fait son budget à 16 heures, après la fermeture des marchés boursiers. Et donc, si t'as une mesure, c'est sûr qu'une mesure fiscale, tu changes les règles de l'impôt, ça pogne un peu tout le monde par surprise, mais des fois, t'as pas le choix. Parce que tu veux pas que les gens changent leur comportement, tu te dis, bon, mais c'est à partir de minuit à soir, c'est ça la nouvelle règle, c'est ça la nouvelle taxe, c'est ça la nouvelle affaire, j'ai été élu, je gouverne, puis je change la règle, je change la loi, puis... Et donc, à l'heure où les gens l'apprennent, il est trop tard pour faire des transactions, la bourse est fermée.
Tu peux pas t'en virer de bord.
C'est ça. Mais là, dans ce cas-ci, quelque chose d'assez unique, c'est que cette mesure, ce changement à la taxation des gains en capital, on a mis une date d'entrée en vigueur, 25 juin. Et là, tu dis, OK, mais c'est le pourquoi. Hier, j'ai fait une entrevue avec Pierre Poilievre, puis il y avait une explication, puis tu dis, ouais, je pense qu'elle est pas mal logique, celle-là. Des fois, il exagère, puis il met tout sur le dos de Justin Trudeau, mais sur ça, je pense que c'est assez chirurgical. Il dit, écoute, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui sont vraiment riches, qui ont des, par exemple, des blocs d'actions en bourse qu'ils ont acheté il y a longtemps, ça va liquider solide durant le mois de mai puis dans le mois de juin. Envoyer, ça va liquider. Peut-être même pour sortir leur argent carrément du Canada, mais au moins pour prendre leur profit. Et donc, l'épouvantable du budget que je réalise, c'est que tu sais, le gouvernement a mis pour cette mesure-là un gros, gros montant d'argent cette année. Là, on est porté logiquement à dire, ah, ben c'est ça, il va faire plus d'argent parce que les gains en capital vont être imposés à 66 %. Mais c'est pas ça, pantoute. C'est pas les gains à 66 % entre le 25 juin puis le 31 mars qui vont faire augmenter le montant.
C'est ceux qui vont vendre là.
C'est ça. C'est la liquidation massive. C'est les ventes folles qui vont avoir lieu en mai. Même s'ils vont être taxés juste à 50 % qui vont être imposés juste à 50 %. Mais il y a tellement de monde qui vont liquider leur avoir que pour une seule année, juste pour l'année en cours, ça sauve le gouvernement Trudeau, ça sauve son budget. Mais ça sauve son budget en échange de quoi? Peut-être de gens qui posent des gestes, qui vont sortir leur argent du pays. Fait que c'est comme une mesure. Tu sais, la première journée, c'était OK, on fait payer les riches. Puis là, plus tu l'analyses, plus tu te rends compte de deux choses. Un, que les vrais riches vont probablement jouer avec ça, puis sortir leur argent avant. Et deux, que ceux qui sont mal pris, puis là, je l'entends ici dans la région de Montréal, c'est les propriétaires de duplex, de triplex, les gens d'un certain âge qui ont choisi il y a longtemps d'investir. Eux, ils n'ont pas les moyens là, de faire une transaction rapide en un mois, comme quelqu'un qui a des blocs d'actions, là, tu sais, millionnaire. Fait que la mesure n'est plus ce qu'on l'imaginait dans sa première demi-heure de vente, là.
Ajoutons à ça... Quand t'es rendu à imposer à 66%, là, déjà 50, là, déjà 50, tu travailles la moitié de ton temps, tu travailles pour donner ça au gouvernement, ce qui nous donne, je pense, le léger droit de critiquer les décisions du gouvernement quand il gaspille notre argent. Mais quand t'es rendu à imposer à 66%, quel genre de pays es-tu rendu? Est-ce qu'on est vraiment rendu un régime socialiste? D'un côté, au niveau de l'imposition, 50 % là, c'est là, 66. Je comprends que ça va toucher une fine partie de la population, mais par principe, là, quand un gouvernement est rendu à dire ça va être 66 %, moi, là, je descends de l'autobus. Tu sais, je veux bien qu'on taxe les plus riches, les plus nantis, puis évidemment, on est tous d'accord avec ça, à part Mario, mais on est tous d'accord avec ça. Mais
d'accord avec ça, c'est déjà le cas.
Là, c'est bien. Mais à 66 %, Là, tu dis, c'est parce qu'après, c'est quoi la prochaine étape?
La prochaine étape, c'est qu'un v'là mes clés, là, regarde.
Ouais. C'est l'inclusion, c'est l'inclusion à 66 % des gains en capital. Mais c'est comme une mesure qu'on n'avait pas. Tu sais, la première mouture, le gouvernement parlait des ultra-riches, là. Il y a des collègues ici d'un certain âge qui ont investi dans un triplex, là, puis c'est un peu l'investissement de leur vie. Puis mettre dans des argents dans un REER, ils ont acheté un triplex, ils habitent en bas, puis ils louent les deux logements. Là, ils se réveillent un matin, ils sont rendus dans les ultra-riches, là, ils compétitionnent avec les familles Desmarais et Pelado pour les... Ils disent non, écoute, là, on est des travailleurs ordinaires, là, on gagne notre vie, puis on l'a juste placé là-dedans.
Mais il n'y a pas une loi sur le Shylocking au Canada? 66%, c'est pas du niveau du prêt usuraire, là, c'est ou de la taxation usuraire. Non, mais sincèrement, moi, comme si ce n'est qu'au niveau du symbole, quand un gouvernement impose 66% de taxes sur quoi que ce soit.
Non, non, c'est indécent. Mais Benoît, tu parles du Canada.
Mais ça va faire 33, là. Mettons, ça va faire 33. Tu l'inclus à 66%, mais tu vas pas, c'est ça.
Ouais, mais là, on parle du Canada. Mais le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, jongle avec l'idée, là, de s'arrimer avec la mesure canadienne, là, Mario.
Toi puis moi, là, la tentation d'aller chercher, d'aller ramasser une couple de milliards puis de dire, hey, c'est pas de ma faute, mais c'est. Je m'harmonise avec le fédéral. Il faut que nos régimes fiscaux soient harmonisés.
La tentation
c'est
est forte.
C'est simple,
hein?
Pour les comptables. C'est tentant.
Mais en même temps, s'il fait ça, puis après, s'en va rejoindre Pierre Poilievre, ça va être difficile à justifier.
Ouais, mais là, je pense qu'il n'ira pas rejoindre. Tu parles de M. Girard hier, qui a pas voulu nier qu'il pourrait peut-être aller à Ottawa. Le problème, c'est que je suis pas sûr qu'ils veulent de lui.
C'est ça, lui,
ce que j'entends d'Ottawa, c'est que son déficit de 11 milliards, ça n'a pas plu aux conservateurs. Puis ils ont déjà leur ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances de la Colombie-Britannique, là, ils l'ont aligné pour être candidat. Fait que malheureusement pour Éric Girard, je suis pas sûr qu'à Ottawa, les conservateurs courent tant que ça après lui. Là.
C'est un rendez-vous peut-être. Raté. Ben, bref. Peut-être. Il s'était habillé propre, hein? Il était prêt pour être séduit et sollicité. Mais bref.
Ouais,
Mario, est-ce que le premier ministre du Québec doit connaître le coût d'un 4,5?
Ben ça s'est transformé hier, l'étude des crédits du conseil exécutif, une espèce de débat des chefs annuels, là, où le premier ministre doit défendre sa gestion. C'est l'étude des crédits de tous les ministères présentement à l'Assemblée nationale. Là, ça dure 3 semaines. Puis hier, c'est François Legault qui était face au chef des partis d'opposition. Et Marc Tanguay virait ça. Écoute, c'est une drôle de questionnaire, là. C'est plutôt que de poser quelques questionnaires sur l'administration publique, c'est quoi votre plus gros défaut, puis toutes sortes de questions. Allez-vous faire un remaniement? Allez-vous vous représenter? Un peu c'est genre sucré-salé un peu, là, ces bars, là. Mais la question après ça, ben le piège, c'est est-ce que vous savez combien ça coûte un 4,5? Et là, je me demandais, c'est la livre de beurre, on les connaît toutes, combien coûte la livre de beurre, la douzaine 2, le 4,5, le 3,5, la pinte de lait, est-ce qu'un politicien doit savoir ça? Le François Legault avait pas la réponse, mais évidemment, s'il risque une réponse puis il se trompe de 100$, on va le faire passer pour un idiot qui connaît pas ses chiffres pendant la prochaine année, mais qui a eu la prudence de jamais répondre. Moi, personnellement, si vous me le demandez, j'ai trouvé que c'était un mauvais spectacle et je me suis demandé, est-ce que Marc Tanguay savait le coût précis, là, le coût moyen d'un 4,5? La veille, mettons, avant là, de faire la préparation de sa période, de son questionnement, est-ce que lui-même, tu sais, si on l'avait pris là, sur le coin de la rue et on lui avait demandé, est-ce qu'il le savait par cœur? Peut-être. Mais
c'est un vieux truc, ça, tu sais. C'est un vieux truc. Tu prépares ta question, tu prépares ta réponse, tu sais, sur, OK, Milosevic, sur la Bosnie, tu sais, là, on entend toutes sortes de sottises, là, ces temps-ci. C'est un vieux truc, là, quand tu veux piéger quelqu'un. Moi, j'aurais préféré que Marc Tanguay, je fais juste une parenthèse, au lieu de parler d'un 4,5, qui parle donc, tu sais, on vient de faire 11 milliards, là, de déficit. Et le gouvernement Legault a quand même une enveloppe de 105 millions sur 10 ans pour en finir avec les cubicules. C'est un petit article dans le journal aujourd'hui, mais je trouve qu'il représente bien comment on gère les finances publiques. C'est là, t'es 11 milliards dans le trou, puis tu regardes ça puis tu dis, ah ben là, les fonctionnaires, ils aiment plus ça travailler dans un cubicule. Là, la mode, là, c'est les bureaux ouverts. Oui. Comme ça, on peut échanger, puis on peut sentir le lunch de l'autre à l'heure du midi. Puis tu dis, c'est vraiment, Tu sais, dans les efforts, là, tu dis, il y a 105 millions prévus, on va laisser faire les cubicules. On va attendre que ça aille mieux, puis là, après, on va vous organiser pour que ça, vous soyez heureux, là, puis si votre chaise est brisée, on va la remplacer, mais vous allez vivre avec vos cubicules. Tu sais, c'est jamais ça le message. Non, on continue à payer. Là, c'est le bureau de Sonia Lebel. Ça y prenait des nouveaux bureaux pour que tout le monde soit heureux quand ils viennent travailler, même s'ils travaillent en télétravail. Moi, c'est ça qui est rendu qui m'écœure, tu sais. Et là, pendant ce temps-là, je vous rappelle, Alain Vaillancourt, qui s'occupe de la sécurité à Montréal, me disait, Monsieur Bonnardel et Monsieur Carman lui ont dit, on coupe 7,3 millions pour une escouade pour intervenir dans le métro parce que la question de l'insécurité n'est pas réglée. Arrange-toi avec ça. Fait que là, on coupe ici et là, puis ça paraît pas. Puis quand c'est le temps de dire, on va bien gérer les fonds publics parce qu'on est dans le trou, non, on continue. Ça, c'est un petit exemple. Au lieu de demander un 4,5, combien ça coûte, m'en disant pourquoi vous continuez à rénover les bureaux alors qu'une bonne partie des fonctionnaires sont en télétravail et qu'on est 11 milliards dans le trou, monsieur le premier ministre.
Et tu parlais, Benoît, du sous-ministre aux infrastructures, là, du bureau de Sonia Lebel. Mais on investit dans le bureau du sous-ministre quand même. C'est du beau.
Oui, hein, le mobilier de bureau.
Dans le journal, un peu.
Oui. Ouais. Non, c'est
60 000, là, 60 000, 105 millions sur 10 ans parce qu'on veut plus de cubicules.
Benoît, est-ce que Paul Saint-Pierre... Oui, l'argent des autres. Ça, on a vu ça aussi dans certains comptes de dépenses.
L'argent des autres.
Oui. Ouais. Benoît, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon est allé trop loin dans les mots qu'il a utilisés là, dans son discours sur l'avenir du Québec et la souveraineté?
Moi, ce qui me fait rire ce matin, là, c'est tous les petits cacas nerveux qui se font. Là. Tu sais, Pablo Rodriguez, tu sais, celui qui hurle de temps en temps au Parlement. Alexandre Boulris qui dit, lâchez-nous avec ça, là. Déportation 1755, exécution 1839, les Patriotes.
Rodriguez parle de propos violents de PSPP.
Mais je veux pas aller sur le propos violent. On va sortir Jean Chrétien. On va sortir notre ami Luc Lavoie, là, chasser les séparatistes. Les fédéralistes, là, ils ne sont pas à une demi-mesure pour les propos violents. Là où je veux aller, moi, c'est que si vous voulez oublier ça, les patriotes pendus, puis la déportation, ben, on va arrêter avec la journée de la vérité et de la réconciliation. Les Autochtones, le traitement, c'est pas important, on oublie ça. On va arrêter aussi avec les programmes, entre autres, d'entrepreneuriat aux communautés noires, parce que l'esclavage, qui s'est terminé en 1834 au Canada, on va oublier ça. Alors, qu'est-ce qu'on décide d'oublier? Puis surtout, on veut pas faire vomir Mme El-Gawabi, là, tu sais, qui est bien sensible quand on parle du sort des Québécois. Ça, elle a toujours une petite nausée.
Oui, petite gravole.
Alors, qu'est-ce qu'on oublie dans notre histoire, puis qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde ça juste quand ça ne concerne pas les Québécois? Parce que on l'a vu, là, Justin pleurnicher, puis pleurer, puis la pleureuse sur toutes les journées de réconciliation, puis l'esclavage, les Noirs. T'sais. Est-ce que ça, c'est permis? Est-ce que ça mérite qu'on s'y attarde et qu'on essaye de rétablir la confiance avec diverses communautés au Canada? Mais pas les Québécois, pas les patriotes pendus en 1839. Non, ça, c'est... Il est là, mon problème, moi. Plus que dans la violence des propos, parce qu'il n'y a pas de violence dans les propos. Il décrit une réalité historique, là. Violence des propos, on va y rappeler son ami Jean Chrétien, entre autres.
Mario, comment tu vois ça?
Mais la question, c'est est-ce que la réalité historique... Puis t'as 1000% raison, Benoît, quand tu dis on choisit le mouvement woke, puis tout ça. Toutes les minorités au Canada sont importantes, sauf une, les francophones. Les Québécois francophones, c'est pas compliqué. Ouais. Mais la question pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est est-ce qu'on fait l'indépendance en 2024 ou en 2026 ou en 2027 à cause de la déportation des Acadiens? Moi, personnellement, je pense que ça convainc personne. Dans le sens que c'est l'histoire.
Non, mais c'est pas ça qu'il a dit. C'est une réalité historique.
C'est une réalité historique, ça, mais...
Mais dans moi, je l'ai pas entendu s'attarder tant que ça sur cette déportation. Tu sais, il l'a mentionné en part. Et là, tous les fédéralistes font un caca nerveux ce matin ou hier.
Ouais, mais on comprend que, ouais. Mais la grosse affaire qu'il a faite, la réussite de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est qu'il a envoyé de la peur dans les deux camps. Et là-dessus, là, tu parles des caca nerveux. C'est sûr que les gens qui défendent le Canada, puis qui disent aujourd'hui, ah ben là, ça n'a pas de bon sens, Paul Saint-Pierre Plamondon se lance dans une campagne de peur. Mais c'est probablement la première fois qu'on fait peur aux Québécois avec le Canada, qu'on leur dit, ouais, mais le Canada, il présente des menaces, des risques pour la langue. Alors que dans l'autre cas, je veux dire, écoute, là, en 1980, la campagne s'est jouée sur « Si vous votez oui, vous allez perdre vos pensions de vieillesse. » On ne peut pas croire. C'était une campagne de peur, mais je veux dire... Et je me souviens de la campagne de 1995. À un moment donné, là, quand c'était vraiment serré, Daniel Johnson a sorti « Vos taux d'intérêt hypothécaire vont monter. Si vous votez oui la semaine prochaine, vos taux d'intérêt hypothécaire vont monter. » Fait que tu sais, c'est le genre d'affaire que tu dis, OK, ça, c'était pas des campagnes de peur. Et là, c'est tout à coup, Paul Saint-Pierre Plamondon a mis de qui dans la peur et des deux bords. Peur pour peur, là, il y a de quoi avoir peur des deux bords.
Mais ce que Daniel Johnson Jr. disait, c'était pas un fait historique. C'était une hypothèse.
Comme Trudeau, du vote, toute sa
gang de sbires qui disait, vous allez perdre votre chèque de pension. C'était une hypothèse. C'était pas un fait historique. Là, on parle d'un fait historique. Alors, parlons des faits historiques, parlons d'esclavage, parlons du traitement des Autochtones, des Premières Nations. Mais si on oublie un, on va oublier les autres. Puis on va abolir un paquet de programmes. Ou juste le mentionner choque tellement les fédéralistes, c'est rendu grave. Là, on n'a même plus le droit de dire que on a passé par des moments de violence, nous, le peuple québécois.
Maintenant, une fois tout ça dit... Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, avec ça, a quand même arrêté sa montée là, dans les sondages, la montée du PQ. Et je dis arrêter sa montée, j'ai hâte de voir d'ici 6 mois. Parce que moi, j'entends autour de moi, il y avait beaucoup de sympathisants à Paul Saint-Pierre Plamondon qui avaient comme pas vraiment pris... Ils sont pas vraiment indépendantistes, puis ils n'ont pas vraiment pris au sérieux tant que ça, tu sais ça. C'est surtout un bon gars, là, tu sais. Et là, cette semaine, dans cette semaine-là, il est quand même sorti un peu de son personnage de bon gars. Il a fait peur un petit peu, là, comme un leader. Bon, les adversaires ont dit radical. Est-ce que le mot est trop fort? Mais ouais, certains radicalistes, en tout cas, une fermeté. Et là, c'est comme les gens qui l'aimaient pour le gars poli, qui au débat des chefs était moins partisan que les autres. Il y avait une belle politesse. Genre. Là, tout à coup, oups, le gars, il écorche là, sur cette question-là. À mon avis, il va y avoir un impact dans les sondages. Peut-être qu'il l'a mesuré. Là. Peut-être qu'il dit, ben là, regarde, moi, je suis plus à l'étape de faire monter le PQ dans les sondages. Je suis à l'étape de brasser la canisse puis de faire monter l'option de l'indépendance. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un effet. Là, parce que j'entends là, qu'il y a des gens qui sont comme déçus de lui. Mais on va dire déçus de lui. Peut-être parce qu'il avait fait... Il était pas vraiment indépendantiste puis il aimait le PQ. Puis il disait au sondage, ouais, demain matin, je voterai Paul Saint-Pierre Plamondon sans prendre la pleine mesure de ça, là.
Je suis pas sûr de la déception là. Je suis pas sûr. Moi, j'aime le combat, l'aspect combatif là, de Paul Saint-Pierre Plamondon, d'être capable de monter aux barricades. Puis c'est ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Tu sais, Pauline Marois l'a pas vraiment fait. Tu sais, les précédents, Jean-François Lisée l'a pas vraiment fait, pas de cette façon-là. Moi, d'abord, je suis étonné qu'il impose. Qui impose ce sujet à l'agenda politique, alors qu'on est-tu loin d'un vote de référendum? On est-tu loin d'un gouvernement péquiste?
Non, c'est sûr.
C'est un tour
de
force.
On parle du changement de ton, Richard Martineau, titre Le virage heavy metal de PSPP dans le journal ce matin. Benoît Mario, merci à vous deux.
Salut.